Plaisance, à Sévrac-le-Château, 102.3.
Et c'est parti pour une heure de direct. Soyez toutes et tous les bienvenus. C'est un plaisir de se retrouver entre midi et 13h. Nous allons aller, on va aller dans le Gers très longuement aujourd'hui, puisque nous aurons Monseigneur Bertrand Lacombe, l'archevêque du diocèse d'Auch. Il sera en compagnie d'Anne-Rose Jankovic. Et puis on parlera de la Maison des Femmes, grâce à notre correspondante dans le Gers, Pauline Cazier, qui va nous faire découvrir donc cette structure qui vient en aide aux femmes qui malheureusement ont été battues et qui ont besoin d'aide et d'être même cachées pour un certain temps. Et puis un jour, un livre, un auteur, eh bien vous découvrirez un musée, pas n'importe lequel, il se trouve à Juillan, entre Tarbes et Lourdes, petite commune. C'est un musée qui est uniquement destiné à monsieur Hugo, Victor Hugo. Alors ils l'ont appelé le musée Victor H. Voilà, et on sera avec la personne qui a créé ce musée et qui le fait vivre du côté de Juillan. C'est le seul musée dans le sud-ouest consacré donc à ce grand auteur qui est Victor Hugo. Voilà pour l'essentiel donc et le sommaire de ce magazine. On va retrouver tout de suite l'essentiel de l'actualité en compagnie de nos élèves de l'école de journalisme de Toulouse.
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Après avoir bloqué les routes, les agriculteurs nettoient les déchets, sauf un groupe qui réclame de l'argent. Le préfet rejette cette demande et maintient sa plainte contre la coordination rurale. À Tournefeuille, la préfecture demande l'annulation du scrutin gagné d'une seule voix par le maire sortant en raison d'irrégularités dans plusieurs bureaux de vote. Élus, parents d'élèves et syndicats tous unis à Cahors pour s'opposer à la fermeture de 12 classes. En Aveyron, face au vieillissement des éleveurs, la filière ovine cherche à séduire les jeunes au salon Provinlay. Les élèves du lycée La Découverte de Decazeville en tête d'un challenge environnemental interlycée. Et enfin, dans le Lot, la chapelle de Maradin à Martel et ses fresques sur la Shoah de Miklos Bokor en lice pour le trophée du patrimoine.
Un grand merci à Ginny Lee Tieschip, qu'on retrouvera tout à l'heure à partir de 12h30 pour le journal de la mi-journée. Allez, moi je vous propose de prendre la direction de ce beau département du Gers et on va retrouver Monseigneur Lacombe, l'archevêque du diocèse d'Auch. On le retrouve, il est en compagnie aujourd'hui de Anne-Rose Jankovic pour son entretien mensuel.
Radio Présence à Mirande, 104.2.
Bonjour Monseigneur Bertrand Lacombe.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes l'archevêque d'Auch. Avec vous, on prend des nouvelles de votre diocèse du Gers. D'abord, nous sommes toujours dans la joie pascale et je crois que c'est avec cette joie pascale que vous avez écrit l'édito de la prochaine publication diocésaine.
Voilà, Elle est parue, là, donc on pourra retrouver ces informations. Après le temps du carême, nous sommes dans cette joie pascale, dans ce moment de la célébration des sacrements, particulièrement les baptêmes, mais enfin, je pense aussi au mariage, je pense aux communions, aux confirmations. Et puis, c'est le temps du pèlerinage, avec notre beau pèlerinage en famille à Lourdes, et puis également aussi... va venir rapidement le pèlerinage pour les femmes, le pèlerinage pour les hommes. Il y a également un pèlerinage à Assise pour le diocèse au mois de juin. Et puis, nous poursuivrons avec l'été, le PLVTT, le pèlerinage de l'hospitalité Sainte-Bernadette à Lourdes.
On se projette déjà dans l'été dans votre diocèse.
C'est-à-dire qu'on se projette dans les pèlerinages et on s'aperçoit qu'il y en a, il y en a au moins un par mois. Je crois que c'est vraiment, ça dit notre condition itinérante. Mm-hmm. Et puis les temps forts dont on a besoin pour notre vie chrétienne.
Oui, c'est ça.
Ça fait vraiment de belles perspectives qui nous accompagnent tout au long de notre vie.
Oui, puis on se rend compte au travers des événements que vous nous relayez sur cette antenne qu'il y a des événements qui sont pour les jeunes, pour les hommes, pour les femmes. Et puis, il y a d'autres rendez-vous qui sont complémentaires de ces premiers rendez-vous, qui sont là pour toute l'assemblée diocésaine. Sans doute, il faut trouver un équilibre entre les deux pour vraiment être imprégné de la vie diocésaine.
Ben oui, c'est ça. Hein. C'est à la fois la dimension de foi personnelle, ce que l'on vit dans les paroisses aussi, qui compte beaucoup, et puis ce que l'on vit aussi en famille diocésaine. Oui.
Alors, puisqu'on parlait de la publication de votre édito, dans le domaine des publications, il y a deux autres documents que vous avez publiés dans le diocèse d'Auch. Un document, alors tout ça englobe la pastorale, est englobé par la pastorale familiale, mais il y a un document spécifique pour les couples et puis un autre pour les familles. Ça, c'est deux documents, c'est un peu des nouveautés.
Voilà, c'est des nouveautés, et puis ça s'inscrit vraiment dans ce pèlerinage en famille à Lourdes, avec une attention pour les couples, et là on est parti surtout de la préparation au mariage, où maintenant on a une préparation au mariage dans chaque paroisse, donc ça c'est vraiment une belle proposition, et puis les futurs foyers ont été invités à participer au pèlerinage en famille à Lourdes, donc voilà, il y a une place particulière qui a été marquée pour eux. Et donc, c'est ce qui s'appelle chemin de couple, avec toutes ces propositions à la fois d'initiatives ecclésiales, mais aussi de manière d'être chrétien sur la vie sacramentelle, sur la prière, sur tout ce que l'on peut vivre dans le couple chrétien. Et puis, ce que nous attendons tous aussi pour les couples, c'est beaucoup de fruits de leur union. Et puis, les fruits dans la vie familiale aussi. Mais à des fois, on n'est pas toujours au courant de ce qui peut être fait pour ce qui peut être proposé pour les enfants. Et là, dans ce très très beau livret Chemin de famille, à partir du baptême, de l'éveil à la foi. Il y a vraiment de nombreuses propositions diocésaines qui sont dans ces livrets. Et là aussi, c'est ce pèlerinage en famille à Lourdes qui est l'occasion de diffuser toutes ces informations et toutes ces initiatives.
Pour vous, c'est quoi le message principal à adresser à ces couples et à ces familles dont certains peut-être reviennent à l'Église ou découvrent l'Église? Qu'est-ce que vraiment vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce que vous avez envie que ces couples sachent de l'Église?
Je dirais le couple déjà, qui est déjà un foyer, et puis plus encore la famille, c'est vraiment le premier lieu de vie chrétienne. C'est là que on apprend l'amour, c'est là où l'enfant découvre cet amour par ses parents, par ses frères et sœurs, par son environnement. Et quand on a la grâce de croire, on se dit que cet amour, bien sûr, on le reçoit de ses parents et de ses proches, mais il vient aussi de Dieu. Et cette famille est cette première cellule d'Église que l'on vit et dans laquelle on reçoit cette assurance de l'amour pour transmettre ensuite cette amitié, cet amour autour de soi, pour ensuite être missionnaire de la miséricorde du Seigneur. Donc on voit bien combien la famille est ce lieu d'Église qui va permettre une diffusion, une diffraction, propagation de la vie chrétienne.
Vous voulez dire que finalement la famille, la cellule familiale, elle est féconde en dehors du fait d'avoir des enfants, il y a une fécondité des familles dans l'Église et dans le monde.
Ah ben ça, c'est sûr qu'il y a une très grande fécondité et qui permet aussi d'aller au-delà de la famille. C'est-à-dire la famille, c'est le foyer, hein, comme un foyer, comme un feu qui brûle. Mm-hmm. Mais en venant se réchauffer à ce foyer, eh ben, on peut être missionnaire de différentes manières. Et je pense, dans la vie diocésaine, aux propositions qu'il va y avoir pendant le temps pascal, que ce soit pour les vocations, que ce soit au niveau de la solidarité ou de ce qu'on appelle les terres d'espérance, c'est-à-dire la mission dans le domaine agricole. On va avoir le pèlerinage des vocations le lundi de Pentecôte. On va avoir deux beaux événements autour de la solidarité, le week-end du 8 mai, mm-hmm, avec le festival Terre d'Espérance du comité contre la faim et pour le développement à Lectoure, Et puis le 22 mai, les 80 ans du Secours catholique à la cathédrale à Auch. Donc, vous voyez, on reçoit de la bourre en famille et puis on le diffuse. Voilà. Et de même pour ce qui a trait aux propositions que nous appelons Terre d'Espérance. Et la semaine de l'Ascension, donc du 10 au 17 mai, ça sera des propositions auprès des agriculteurs, de bénédictions d'exploitation.
C'est le temps d'érogation.
Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelait l'érogation, mais qu'on est heureux de poursuivre avec des échanges sur les difficultés, mais aussi sur les joies, le partage du verre de l'amitié, une messe plus particulièrement pour les agriculteurs. Et l'année dernière, on avait centré ça sur le jour de l'Ascension, tandis que cette année, c'est toute la semaine où les paroisses sont invitées à manifester cette proximité avec le monde agricole. Et une des initiatives aussi du Festival Terre d'Espérance, c'est le concours photo prendra fin le 30 mai. Alors, vous voyez, ces différentes initiatives, qu'elles soient liées à la vie sacramentelle, aux vocations, au pèlerinage, aux rogations ou à la solidarité, eh bien voilà, on pourra prendre des photos et participer à ce concours photo du cliché à la contemplation.
Ah oui, c'est la troisième édition, je crois.
Oh là là, je crois que vous êtes tout à fait au courant, c'est ça, c'est notre troisième édition.
Voilà, eh bien on voit qu'il y a des événements des choses qui s'inscrivent plus sur la durée, sur le long terme, et c'est l'association de tout ça qui fait on entend bien le dynamisme de votre diocèse, Monseigneur Lacombe. Je crois que vous vouliez aussi nous parler d'un document qui vous tient à cœur. Là, il s'agit de Diaconat. C'est un petit livret de repères, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est que je dirais c'est un peu plus largement, donc j'ai la joie d'accompagner le diaconat à la conférence des évêques, et après avoir fait une publication théologique sur la théologie du diaconat, nous avons maintenant une édition plus concrète, un document qui s'appelle « Repères pour le diaconat, ensemble dans la barque », qui fait quand même 130 pages, et qui donne des éléments pour la vie des diacres. Et on reprend au départ quelques éléments théologiques, mais on les retrouvera surtout dans le document épiscopat récemment paru, là le numéro 16. Mais sinon, c'est tout au long de la vie des diacres, comment on devient diacre, comment on assure comment est vécu le ministère et la vie des diacres, comment on vit la fraternité diaconale. Et à partir de ce qui se fait, donc vous voyez là c'est plutôt une pratique, ce qui est vécu dans les diocèses, eh bien nous partageons à l'ensemble de l'Église de France ce qui est fait et qui va stimuler, encourager le diaconat.
Voilà, bien, on entend que c'est un sujet qui vous tient à cœur et alors qui ne concerne pas seulement l'Église du Gers, bien sûr, on comprend bien. Est-ce que ce document est accessible et fait pour un public plus large que ceux qui sont déjà un peu engagés dans la voie du diaconat? Enfin, est-ce qu'on peut le lire pour s'informer tout simplement de ce qu'est le diaconat?
Oui, bien sûr. Alors, je suis d'ailleurs même heureux de voir, là, on en est à près de 4000 commandes. Et donc, ça va concerner les diacres personnellement, mais plus largement, et les diocèses. Il y a à peu près les trois quarts des diocèses de France qui ont commandé. Ils ont commandé beaucoup plus largement que pour les diacres et pour donner aussi à l'ensemble des ministres ordonnés, donc également aux prêtres, pour donner aux laïcs en mission ecclésiale. Parce que évidemment le but, c'est pas de faire quelque chose en soi, mais c'est de faire quelque chose de beaucoup plus large. Hein. Là aussi, on vit la grâce que nous donne le Seigneur de manière particulière, mais le but, c'est de la diffuser et d'être témoin beaucoup plus largement de la vie avec le Christ.
Et voilà, et là on rejoint bien la question de la vocation, un sujet pour lequel vous prierez le lundi de Pentecôte, si j'ai bien écouté.
Pour la voilà, journée. Alors c'est ça. Alors déjà pour le quatrième dimanche de Pâques, qui est la journée mondiale de prière pour des vocations, et puis nous la faisons précéder dans le diocèse par une neuvaine là qui va bientôt arriver dans toutes les paroisses et pour tous les fidèles, cette, euh, cette neuvaine, mais ensuite, plus particulièrement pour le diocèse, cette journée, maintenant, ouais, que nous avons bien en tête du lundi de Pentecôte.
Et vous nous en reparlerez, bien sûr, Monseigneur Lacombe, sur l'antenne de Radio Présence. Merci pour ces nouvelles.
Ben oui.
J'indique que le site internet diocèse32.org, le site internet de votre diocèse, un site magnifique sur lequel on trouve toutes les informations, la carte des paroisses et beaucoup d'actualités du diocèse d'Auch. Et voilà, et ça complète tout ce que vous nous dites sur l'antenne de Radio Présence chaque mois, Monseigneur Lacombe.
Mais oui, merci Anne-Rose. Et puis, voilà, nous demeurons dans cette joie pascale, unie avec tous les auditeurs de Radio Présence, Tarbes, Lourdes, Pyrénées.
Merci beaucoup, Monseigneur. À bientôt.
Merci à vous. À bientôt.
Et merci beaucoup également à Anne-Rose Jankovic pour l'interview. Juste après le temps d'une chanson, on repart dans le Gers avec Pauline Cazier, découvrir la Maison des Femmes à Auch. Et la musique, c'est le chanteur M. Pokora. Qui on est, et le titre de cette chanson. Très belle fin de matinée à notre compagnie. Bon appétit si vous êtes à table.
On a tous des choses que l'on n'a pas, une famille, des amis, des habits ou un appart. On fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit, mais parfois c'est la vie qui nous prive de voir. Bien sûr qu'on est chacun avec sa chance, mais certains trouveront la chance en chemin. C'est sous la pluie qu'on apprend le mieux à danser. On va plus haut quand on revient de loin. Ce qu'on vit, ce qu'on veut, ce qu'on voit, c'est la même chose, je crois. Ce qu'on fuit, ce qu'on dit, nos combats, on est les mêmes, je crois. Hey, viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur on l'évite alors qu'il était là. Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. La main sur notre épaule, quand le bonheur nous frôle, c'est bien qu'il était là. Tout ce qu'on n'a pas, cheveux longs, une maison ou une belle brune à son bras. Celui qui a tout peut toujours plus oublier d'être heureux et jouer à la roulette russe. Bien sûr qu'on perd un peu notre innocence, quand le destin nous frappe sans prévenir. Il suffirait de s'armer de patience pour voir enfin les bons jours revenir. Quelquefois, quand on n'a plus de voix, peut-être temps de s'écouter. C'est alors que l'amour fait sa loi, qu'on trouve quelqu'un pour être à nos côtés. Hey, viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur on l'évite alors qu'il était là. Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. La main sur notre épaule, quand le bonheur nous frôle, c'est bien qu'il était là. Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur on l'évite alors qu'il était là. Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. La main sur notre épaule, quand le bonheur nous frôle, c'est bien qu'il était là.
Présence à Pamiers, 100.2.
En décembre dernier a ouvert à Auch une maison des femmes santé du Gers. C'est porté par le centre hospitalier, un lieu dédié à l'accueil et à l'accompagnement des femmes victimes de violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou financières. Grâce à une équipe médicale complète, les femmes sont écoutées et accompagnées vers une démarche judiciaire si nécessaire. Au micro de Pauline Cazier, on écoute le docteur Véronique Lejeune qui nous parle de cette structure à Auch.
Donc bonjour, je suis gynécologue obstétricienne à l'hôpital d'Auch. Je suis responsable du pôle mère-enfant et on m'a confié la responsabilité médicale de la création de la Maison des Femmes du Gers.
Oui, parce qu'il y a eu donc le 9 mars une soirée débat autour de la projection du film La Maison des Femmes qui est sorti en France, un très très beau film, et donc je suis venue vous voir pour que vous me présentiez cette Maison des Femmes qui a été ouverte en décembre dernier. Elle dépend de l'hôpital d'Auch.
Oui, effectivement, il y avait une demande des autorités de créer une Maison des Femmes dans chaque département en France. C'est un mouvement qui a commencé suite à cette première Maison des Femmes qui avait été créée à Paris et qui fait l'objet du film. Au décours de ça, de ce mouvement, il y a eu une proposition d'ouvrir effectivement ces lieux dans chaque département en France. Donc nous, ici au niveau du Gers, ce projet est arrivé au moment de la création du pôle d'accueil des victimes et la convention a été signée avec l'ARS et le ministère de la Justice pour les 3 unités.
Le pôle unité médico-judiciaire, c'est ça ?
C'est ça, qui regroupe 3 unités, l'unité médico-judiciaire de proximité, l'UAPED, c'est-à-dire le centre d'accueil des enfants en danger, et la Maison des Femmes. Donc, la Maison des Femmes, c'est un lieu qui, contrairement à son nom, n'est pas un lieu qui accueille des hébergements, mais c'est un endroit qui regroupe des professionnels pour que les femmes victimes de violences, dont on sait qu'elles sont souvent isolées, qu'elles ont difficulté à faire cette démarche de demande d'aide, aient un seul lieu d'accueil dans lequel vont être regroupées un maximum de personnes qui seront là pour les aider. Alors bien entendu, ça ne se crée pas dans un désert. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent déjà dans le Gers pour aider les femmes victimes de violences, des associations, des instances gouvernementales, tout un tas de maillages qui existent déjà aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est pas de créer quelque chose à côté, c'est de créer quelque chose avec. Et que les femmes qui veulent se faire aider lorsqu'elles sont victimes de violences, que ce soit des violences physiques, sexuelles ou non, ou des violences psychologiques, ou même des violences financières, c'est-à-dire qu'elles sont empêchées de tout parce qu'on leur a pris leur papier et qu'elles dépendent entièrement de quelqu'un, toutes ces femmes-là pourront contacter un organisme unique central qui les recevra physiquement, discrètement, et qui essaiera de voir ce dont elles ont besoin.
Parce que c'est important de dire discrètement, c'est-à-dire qu'elles sont reçues dans un cadre sécurisé avec des psychologues, entre autres, bien sûr.
Oui, alors il y a un accueil qui est fait en premier accueil, qu'il soit physique ou téléphonique, par des infirmières qui ont été formées à l'accueil et des secrétaires. Et ensuite, en fonction du besoin des femmes, on met à leur disposition aujourd'hui 3 professionnels qui sont un professionnel médical qui, en fonction des jours et des besoins, sera un médecin ou une sage-femme, une assistante sociale et un psychologue. Donc tous sont formés à l'accueil de femmes victimes de violences parce que ce ne sont pas des patients comme les autres. L'abord doit être différent, patient et particulier. Et surtout, l'idée, c'est de ne pas leur imposer un parcours, mais de petit à petit leur faire exprimer les besoins qu'elles ressentent, qui vont évoluer avec le temps, on le sait, et petit à petit répondre à leurs demandes, mais aussi, et c'est vraiment la vocation première de ces établissements, les faire rentrer dans un accompagnement dans lequel on pourra leur faire participer à des ateliers qu'on appelle d'amélioration de l'estime de soi pour pouvoir un jour se réinsérer dans la société avec l'absence de handicap, on peut l'appeler ça comme ça, qui est le fait qu'elles subissent ou qu'elles aient subi des violences.
Parce qu'il faut dire que les femmes qui subissent des violences, elles le sont souvent depuis très longtemps. La peur, souvent elles ont peur de porter plainte. Et là, c'est très compliqué. Elles mettent beaucoup de temps à trouver de l'aide si elles n'y arrivent pas souvent.
On sait qu'elles ont des difficultés, parfois même à se libérer pour aller quelque part, qu'elles ne veulent pas quelque chose d'institutionnel ou de juridique immédiat qui retombera éventuellement sur l'auteur des violences et qui pourrait pénaliser leur vie ou les mettre en danger, elles ou leur famille. Quelquefois, c'est des violences anciennes aussi, hein, et elles vivent avec ça et elles savent que ça impacte leur vie quotidienne. Donc, le but de cette structure, c'est que ce n'est pas une structure juridique. Ce n'est pas un endroit où on va pour porter plainte. On pourra, Un certain nombre de femmes aujourd'hui vont directement porter plainte et c'est leur voie d'entrée dans la prise en charge des violences. Et à ce moment-là, elles seront envoyées à l'unité médico-judiciaire pour la partie pénale. Et ensuite, l'unité médico-judiciaire les rebascule vers la maison des femmes ou vers les associations pour qu'elles soient elles-mêmes soignées vis-à-vis de leur traumatisme. Et ce qu'on offre aujourd'hui, c'est une deuxième porte d'entrée. C'est des femmes qui viennent pour qu'on s'occupe d'elles en premier. Et petit à petit, au fur et à mesure de la prise en charge, elles décideront si oui ou non elles souhaitent porter plainte. Et si oui, on a une convention avec la police et la gendarmerie pour qu'ils puissent venir recueillir leurs plaintes sur place sans qu'elles aient besoin de se déplacer dans un commissariat ou dans une gendarmerie.
Quand on parle de reconstruction, j'imagine que ça prend énormément de temps. En quoi ça consiste ? Est-ce qu'il y a des ateliers, par exemple, thérapeutiques, ce genre de choses ?
C'est l'objectif, hein. Si on prend l'exemple de la Maison des Femmes de Saint-Denis, hein, celle qui est présentée dans le film, elle existe maintenant depuis, je sais pas, une bonne dizaine d'années, je dirais comme ça, à la louche. Ils ont mis en place tout un système, effectivement, de bénévoles, ou non d'ailleurs, qui vont venir créer des ateliers artistiques, musicaux, de sport, de groupes de parole. Tout un ensemble de propositions qui aident les femmes en fonction de leurs besoins et de leur sensibilité à se réinsérer dans la vie sociale. Aujourd'hui, la difficulté que nous, on a à l'hôpital d'Auch, c'est que on a dû ouvrir assez rapidement la maison des femmes pour des raisons administratives. Et donc, pour l'instant, on l'a ouverte dans le même local que l'UMJP. C'est-à-dire qu'on a 3 bureaux pour les 3 intervenants, ce qui n'est pas du tout un lieu suffisant pour pouvoir faire cette prise en charge holistique et globale avec des ateliers. Donc, adossé à cette ouverture qui permet déjà de recevoir les femmes, et on en a déjà reçu, et on commence à créer notre réseau, il y a un projet architectural de aménager une vraie maison dédiée à l'accueil des femmes avec des lieux qui permettront de faire ces ateliers, que ce soit un lieu de repos pour elles, de ressources. Et donc les 2 bâtiments qui sont quasi voisins font partie du site de l'hôpital mais ne sont pas intégrés dans l'hôpital. Pour des raisons de confidentialité, c'est un petit peu à part. Et ce bâtiment, qui va être réhabilité pour en faire une maison des femmes, pour l'instant, on en est au projet architectural et on est aussi dans la recherche des mécènes pour avoir des financements.
Est-ce qu'on peut parler de l'aspect prévention ? Il existe ce qu'on appelle le violentomètre qu'on peut trouver à l'hôpital ou dans d'autres, peut-être chez les médecins, qui explique, quand on est victime de violence, le degré de violence, et puis à quel moment ça devient critique ?
Alors la Maison des Femmes, elle n'a pas seulement un rôle d'accueil, elle a un rôle d'éducation et de prévention, aussi bien auprès des potentielles victimes que de tous les gens qui pourraient les repérer, que ce soit l'éducation nationale, les médecins généralistes, tous les gens, même du public tout venant, hein, on fait bien du secourisme dans la rue, on pourrait tous être capables de repérer des situations de violence ou de détecter dans des choses qu'on nous raconte quelque chose qui est le début du cycle de la violence, plus ou moins avancé, comme vous le disiez, notamment avec cet outil de mesure. Oui, le rôle de la Maison des Femmes, ça va être de parler des violences, de comment on les repère et de comment on les prend en charge. Et ça, toute l'équipe y est prête.
C'est un sujet très très grave, très douloureux, mais est-ce qu'on peut être optimiste est-ce que vous avez des exemples de femmes qui ont réussi, après avoir fréquenté la Maison des Femmes, réussi à s'en sortir, accompagnées par tous les gens qui travaillent dans cette maison ?
Alors, localement, non, bien sûr, puisque nous, on ne fait que démarrer. Mais on a des témoignages qui viennent de plusieurs endroits. Et c'est d'ailleurs pour ça que les autorités s'en sont emparées avec des financements publics. Parce qu'on sait que c'est un vrai besoin et que pour la maison pionnière qui était celle de Saint-Denis, les résultats étaient suffisamment encourageants et positifs pour que l'État décide de financer ça dans tous les départements.
Il y a les femmes, mais il y a aussi les enfants. Parce que les enfants sont souvent témoins des violences conjugales. Est-ce qu'ils sont aussi pris en charge ?
Oui. L'avantage de notre maison des femmes, c'est que le personnel est mutualisé. Notamment les infirmières, l'assistante sociale et le psychologue avec l'UAPED. Donc en fait, dans les deux sens, on a des enfants victimes de violences qui viennent à l'UAPED et on se rend compte que ben, la mère aussi parfois, et du coup elle est basculée dans la maison des femmes, et à l'inverse, on interroge les femmes sur leur famille, qui peut assister aux violences, etc. Et du coup pouvoir aussi prendre en charge les enfants, c'est l'avantage d'avoir tout sur le même site.
Une dernière question sur les chiffres dans le département du Gers. Est-ce que vous savez à peu près à combien ils se montent ?
Alors, en termes de violence, pour les femmes, clairement non. On n'a pas de chiffres. Les associations ont probablement des chiffres des gens qui s'adressent à eux, mais qui est très probablement très très en dessous de ce qu'on imagine, hein, puisque aujourd'hui, les chiffres qui sortent au niveau national, c'est de dire que pratiquement un quart des femmes auront été victimes de violences dans leur vie, soit dans la petite enfance, soit plus tard.
D'où la nécessité de voir ce film, La Maison des Femmes, qui est sorti récemment. Merci beaucoup, docteur Lejeune.
Et merci aussi à vous, Pauline Cazier, qui avait réalisé ce reportage. C'est en décembre dernier qu'a ouvert à Auch cette maison des femmes santé du Gers. C'est porté par le centre hospitalier. C'est un lieu dédié à l'accueil et à l'accompagnement des femmes victimes de violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou financières. Un grand merci à Pauline Cazier, donc, qui a réalisé cet entretien à Auch.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Dans quelques instants, on sera avec Philippe Loni, Diego Arrabal, pour Un jour, un livre, un auteur. On va découvrir aujourd'hui un musée consacré à un des plus grands écrivains français, peut-être même le plus grand, Victor Hugo. Il y a un petit musée, alors petit, c'est pas péjoratif, hein. C'est un musée qui se trouve dans une commune entre Tarbes et Lourdes, c'est à Juillan. Nous serons donc avec celui qui a créé ce musée, qu'il a appelé Victor H, dans quelques instants. Mais pour l'heure, on va retrouver Jenny Lee Chip de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse pour le journal de la mi-journée.
Des agriculteurs des Hautes-Pyrénées ont nettoyé les routes ce week-end après les déchets déposés lors de leur récente manifestation. La plupart des syndicats agissent bénévolement pour apaiser la situation. Le préfet de la région Occitanie les remercie et annule les poursuites contre eux. Pourtant, la coordination rurale refuse de travailler gratuitement. Ces agriculteurs exigent que l'État leur verse 400 euros par jour et par tracteur pour nettoyer. Le préfet Pierre-André Durand rejette cette demande et maintient sa plainte contre ce groupe. À Tournefeuille, où le maire sortant Frédéric Parr n'a gagné que d'une voix en mars dernier, la préfecture a demandé l'annulation de l'élection. Elle a relevé 5 suffrages douteux, bulletins en trop ou non conformes dans 3 bureaux de vote. Dans l'attente de la décision du tribunal administratif, un nouveau vote des 30 000 habitants est envisageable. À Cahors, élus, professeurs et parents ont claqué la porte de la réunion du comité départemental de l'éducation nationale. Ils refusent la fermeture de 12 classes prévues dans le Lot à la rentrée. Cette décision supprimera 26 postes d'enseignants au total. Les protestataires accusent l'État de décider seul sans écouter les besoins locaux. Ils exigent l'annulation immédiate de ce plan. De nouvelles manifestations sont prévues pour sauver les écoles du département. À Requista, en Aveyron, la filière ovine cherche à séduire les jeunes. Le salon Provinlay, organisé aujourd'hui et demain, met au cœur de ces échanges le renouvellement des générations. Aujourd'hui, la moitié des éleveurs a plus de 55 ans, un enjeu important pour la profession qui veut attirer de nouveaux jeunes vers ces métiers. Des élèves de lycée agricole sont aussi invités à découvrir la filière et ses débouchés. Avec près de 110 exposants venus de toute la France, le salon met aussi en avant la diversité du secteur entre élevage, viande, laine et fromage. En parlant des jeunes, les élèves du lycée La Découverte de Decazeville occupent les deux premières places d'un challenge environnemental interlycée porté par la région Occitanie et d'Alquila. Filiale du groupe EDF, déployée dans plus de 100 établissements, ce dispositif encourage les éco-gestes du quotidien pour réduire la consommation d'énergie. Au total, près de 200 kg de CO2 ont été économisés tout au long de ce défi. Dans le Lot, la chapelle de Maradin à Martel participe au trophée de la Fondation du patrimoine. Ce site du XIIIe siècle abrite des fresques uniques de Miklos Bokor. L'artiste survivant des camps y a peint la mémoire du peuple juif. L'édifice souffre aujourd'hui d'infiltrations d'eau menaçant les œuvres. Le projet prévoit d'exposer les fresques au musée de la Raimondie dans ce même département. La chapelle resterait un sanctuaire ouvert lors d'occasions spéciales. Le prix permettra de financer les premiers travaux de sauvegarde.
Voilà pour le journal de la mi-journée. Il faut les féliciter, ces jeunes de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Aujourd'hui, c'était Jenny Lee Chib, j'espère que je prononce bien son nom, et qui nous proposait donc ce moment. Allez, on va partir dans une belle commune entre Tarbes et Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Cette commune s'appelle Juillan. Et un monsieur passionné de lecture, passionné d'un auteur particulier, c'est Victor Hugo. Il a créé un musée et il nous le fait découvrir dans Un jour, un livre, un auteur.
Radio Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arrabal, Philippe Subercase.
Un jour, un livre, un auteur. Diego Arrabal, bonjour.
Bonjour Philippe, comment allez-vous?
Très très bien. On va se déplacer à Juillan aujourd'hui. Donc on...
Sympa.
Ouais, on prend pas la voiture. Hein.
Non, on va y aller à pied.
On va y aller à pied, voilà.
À la petite foulée, comme on le faisait autrefois.
Exactement. Comme je le fais toujours, moi.
Ouais, mais bon, vous êtes jeune, vous.
Alors, Juillan, petite commune du Piémont pyrénéen, située dans la banlieue de Tarbes. Juillan, petite commune tranquille. Enfin, où se trouve, où se trouve, c'est inattendu, tenez-vous bien, Diego Arrabal, un musée Victor Hugo. Et il existe même une association des amis de Victor Hugo. Bonjour Jean-Claude Rieu de Batte.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le créateur du musée Victor Hugo et le président de l'association des amis de Victor Hugo. Où se situe ce musée à Juillan et comment en êtes-vous arrivé là à créer ce musée?
Alors, je me permets une petite correction. C'est pas les amis de Victor Hugo, c'est les Amix.
Les Amix.
De Victor H.
De Victor H, d'accord, ok.
Alors, c'est un double clin d'œil. D'une part, Amix, parce que c'est le terme gascon pour ami.
Ah, d'accord.
Et donc, c'est un clin d'œil à la visite que Hugo et Juliette Drouet ont faite dans nos Pyrénées et dans notre Gascogne en 1843. Et Victor H, parce que c'est un clin d'œil à... au film magnifique de Truffaut, Adèle H.
Adèle H. Voilà. Ouais.
Pardon, alors je réponds à votre question. Là.
Alors la question, voilà, tout à fait. C'était où se situe ce musée à Juillan et comment en êtes-vous arrivé là? Mais vous avez bien fait de donner la précision.
Oui, alors pour reprendre les choses au début, j'ai commencé les activités Hugo en 2002, parce que c'était l'année du bicentenaire de sa naissance, 1802-2002, il y avait eu un peu partout des expositions, des manifestations, des conférences, du théâtre, etc. Et j'avais proposé une séance à Juillan, donc en 2002, et il y avait eu une centaine de personnes qui étaient venues un peu piquées par la curiosité.
Ah d'accord, quand même.
Et puis j'ai continué tout seul, en franc-tireur, si je puis dire, et puis est arrivé d'abord un ami de Juillan, Marc, qui était lui musicien, et qui, quand je débitais des poèmes, lui m'accompagnait et me faisait un fond musical. Et puis d'autres sont arrivés, et en 2014, on s'est dit qu'on devrait, on était une demi-douzaine, qu'on devrait se constituer en association, dûment enregistrée à la préfecture, avec un bureau, des statuts, etc. Ce qu'on a fait, seulement on était à la rue. Et on est resté comme ça quelques temps, et puis la mairie nous a proposé donc un site dans une ancienne ferme qui avait été rachetée par la mairie et où les ateliers municipaux, où les municipaux logeaient leurs outils de travail. Et à l'étage, il y avait cette salle qui était occupée au début par une association juillanaise qui l'avait laissée dans un état assez déplorable parce que bon, il y avait des trous sur les murailles, etc. Donc la municipalité a fait ce qu'il fallait, ils ont plâtré, ils ont retapissé pour en faire une pièce présentable. Et donc nous avons là trois pièces, une petite pièce qui nous sert de bureau, une autre pièce où l'on entasse le matériel, les costumes, les décors donc pour le théâtre, et puis une plus grande pièce qui a été aménagée en musée Victor Hugo. Alors je ne devrais pas dire musée, à vrai dire, parce que musée, pour avoir le droit au titre de musée, il faut qu'il y ait un conservateur ou une conservatrice, mais au moins à mi-temps. Si ce n'est à plein temps, au moins à mi-temps, ce qui n'est pas le cas parce que nous ne sommes que des bénévoles, évidemment. Donc il faudrait appeler ça espace Victor Hugo, peut-être plus proprement que musée Victor Hugo. Mais bon, voilà, on dit musée par commodité, quoi.
Alors, dans ce musée, dans cet espace, on y trouve des choses étonnantes, comme le rapporte la Nouvelle République des Pyrénées, dans un article, je vous vois sourire, daté du 14 mai 2024, qui dit la chose suivante, je le cite. Parmi les documents à la vente se trouvait un quatrain écrit de la main de Victor Hugo lui-même, proposé à 500 euros et adjugé à 950 euros. En suivant, et plus modestement, c'est d'une lettre de 2 pages écrite de la main de l'autre poète lyrique du XIXe siècle, Alphonse de Lamartine, que le président Juyannet, en l'occurrence vous, Jean-Claude Rieu de Batte, s'est porté acquéreur pour un prix plus raisonnable de 40 euros. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller acheter un quatrain authentique de Victor Hugo et...
Pardon, il y a encore une correction à faire là. Il y avait effectivement un quatrain à vendre aux enchères de Victor, juste un quatrain, et il est monté très haut, effectivement. Et je trouvais que c'était un peu beaucoup quand même pour 4 vers.
950 euros.
Très peu connu. Donc j'ai attendu un peu, et puis juste après est arrivé un autre article à la vente qui était une double page écrite de la main de Victor. Sur un bout de papier volant, et c'était à propos de ce qui s'est appelé à son époque l'affaire Le Turc. Et donc là, j'ai pu l'avoir pour 400 et quelques euros.
Ah oui, quand même.
Oui. Oui, 2 pages, mais en fait 2 pages de la main de Victor, donc pour nous c'était précieux.
Oui. Ouais, alors, bien sûr. Une question, ça veut dire que là vous êtes président de l'association des Amix.
Oui.
J'ai bien noté de Victor H. Oui. Donc vous avez rectifié tout à l'heure. Question, qui c'est qui a investi? C'est vous qui avez investi ou c'est l'association qui a acheté les quatrains?
Ah non, c'est moi qui ai payé personnellement.
De votre poche?
Ah oui, oui, oui.
Ah oui, donc ça fait quand même des sommes rondelettes, conséquentes. Il faut avoir une grande admiration. Pour...
Oui.
Après, c'est pas tous les jours qu'on va avoir, puisqu'on rappelle que c'est la salle des ventes de Tarbes, que c'est la salle des ventes de Tarbes, que vous trouvez effectivement ce quatrain écrit de la main de Victor Hugo.
Oui.
Cette lettre de 2 pages écrite par Alphonse de Lamartine, par le poète.
Oui, aussi, oui. Alors c'était un prix plus raisonnable. Celle-là, c'était 40 euros, je crois.
40 euros, c'est ce qui est écrit dans l'article.
C'est une page très bien écrite, enfin très lisible en tout cas, à l'écriture un peu, à l'encre un peu violette, et à la fin de sa vie, Lamartine était un peu dans la dèche, donc il avait publié une histoire de la littérature qu'il vendait par morceaux et qu'il envoyait à ses lecteurs, donc, et là il se plaint qu'il y a une famille qui n'a pas remboursé ce qu'elle devait. Alors il rappelle gentiment qu'il faudrait peut-être qu'il pense à rembourser.
Et cette famille se situe où? Dans les Hautes-Pyrénées? Parce que cette lettre, elle est arrivée comment? Elle se situe?
Ça, j'en sais rien.
D'accord.
Je ne sais rien. Mais elle était à vendre aux enchères aussi. Ouais.
C'est mais peut-être que les 40 euros ont été envoyés à Lamartine.
Quelle Martine?
Quelle Lamartine, ouais. Vraiment une histoire étonnante. Là, quand j'ai lu cet article, La Nouvelle République des Pyrénées, donc je le rappelle, dans cet article daté du 14 mai 2024, qu'on peut retrouver, que tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent vont pouvoir retrouver effectivement sur le site de la Nouvelle, de nos confrères de La Nouvelle République des Pyrénées. Voilà, j'avoue que quand j'ai préparé cette émission, j'ai été quand même... stupéfait. Donc aujourd'hui, dans cet espace, on va l'appeler comme ça, puisque vous dites qu'il faut un conservateur à mi-temps, dans cet espace Victor Hugo, vous présentez ces documents aux personnes qui viennent le visiter. Alors, et comment on peut faire pour visiter cet espace?
Bon, c'est moi qui ai la clé, sinon... il n'y a qu'une clé, donc le bâtiment est fermé a priori. Bon, nous l'ouvrons quand même assez régulièrement pour y faire des séances, parce que nous y avons logé 45 chaises.
Alors des séances de...
Sur Victor.
D'accord.
Oui, oui. Donc il y a 45 personnes que l'on peut accueillir, pas plus, hélas. Donc quand on a un spectacle un peu plus important, on demande une autre salle à la municipalité au centre du village, où là il y a un peu plus de place et un peu plus de chaises. Et donc nous y faisons, nous y répétons nos spectacles, et puis de temps en temps, 3 fois par an environ, nous y faisons des spectacles, oui.
D'accord. Et donc,
nous, systématiquement, nous respectons la Nuit nationale de la lecture. C'était en janvier, là. Alors là, il y a des gens qui viennent, des spontanés, qui apportent leur pierre, puis...
Quand vous dites qu'ils apportent leur pierre, c'est-à-dire que chacun vient avec un texte qu'il a envie de lire et qu'il peut lire.
Un texte de son choix. En général, il y a un thème qui est donné au niveau national à Paris. Et là, cette année, c'était Villes et Champs. Donc, c'était assez ouvert.
D'accord.
Et moi, j'ai lu deux, trois choses de Hugo, puis d'autres en ont lu aussi. Et puis, il y a des gens qui sont arrivés, des espontaneos, comme on dit en corrida, et qui se sont levés, qui sont venus lire donc quelques textes. Ça, c'est la nuit de la lecture. Ensuite, on fait Printemps des poètes, mois de mars, opération nationale aussi. Et puis, une troisième opération qui est la nuit internationale des musées, qui a lieu en mai. Donc, tous ces trois spectacles sont gratuits. Et là, on accueille un peu de monde, oui.
Étonnant, hein. Donc, l'association des amis de Victor... des Amix, pardon, de Victor H. Je compte près, je l'ai vu, oui. De 70 adhérents,
oui.
Et adhérentes.
Oui, exact.
J'ai été stupéfait. Ce sont des gens qui viennent des Hautes-Pyrénées ou vous avez des adhérents qui viennent de plus loin?
Non, c'est des Hautes-Pyrénées. Après, il peut y avoir ponctuellement... Il y a un gars qui vient de Bordeaux. Il y a eu quelques Landais, Béarnais, mais assez peu quand même. La majorité, c'est des Bigourdans, oui.
C'est vraiment étonnant. Donc, alors on y a fait l'autre jour. Moi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, Jean-Claude Rieu-de-Batte. On a eu donc il y a plusieurs semaines de cela donc un atelier d'écriture organisé par Marc Garcia que l'on salue.
Oui.
S'il nous écoute, qui organise également un atelier d'écriture. On l'avait reçu ici sur le plateau de présence donc à AD. Là, c'est le premier atelier d'écriture qu'il a fait donc à l'intérieur du musée Victor Hugo. Alors quand il m'a appelé. Il m'a dit, bon, voilà, on se retrouve au musée Victor Hugo, comme si j'étais au courant qu'il y avait un musée Victor Hugo. Je lui dis, ah bon, première nouvelle, il y a un musée Victor Hugo dans les Hautes-Pyrénées. J'ignorais totalement ça. Je ne sais pas si vous étiez au courant.
Mais non, je ne savais pas et je n'imaginais pas que Victor Hugo était venu jusque-là.
Et oui, et si je peux me permettre, oui. Il y a très peu de musées, effectivement, Hugo en France. Que je sache, il y a sa maison natale à Besançon, qui a été transformée en musée. J'y suis allé il y a très 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 longtemps, mais c'était un immeuble privé. En bas, il y avait une pharmacie, je crois me souvenir, mais ça se visitait pas. Maintenant, oui, ils l'ont arrangé. Après, il y a le musée de la Place des Vosges à Paris.
La Place des Vosges à Paris, voilà, celui-là, j'ai
été voir. Où il a longtemps vécu.
Besançon, je connais pas, par contre.
Et puis, il y a la maison de Villequier, où sa fille Léopoldine donc s'était mariée avec
Bacquerie.
En Seine-Maritime, là-haut.
C'est ça, là où elle s'est noyée, voilà, qui a donné lieu à ce poème, c'était, Demain de l'aube.
La maison de sa belle famille.
D'accord, ok.
La maison de sa belle famille. Là, ça a été transformé en musée. J'y suis pas allé. La magnifique Estelle y est allée. Elle m'a rapporté des documents. Et puis, il y a dans la vallée de la Bièvre aussi, il y a un musée. Que je sache, mais
alors la Bièvre, c'est dans quel département?
La Bièvre, c'est la Seine-Saint-Denis ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est au sud.
Je sais pas où, au sud.
J'avoue, au nord de la Garonne, j'ai un peu de mal.
Voilà. La Bièvre est un affluent
de la Garonne
qui traverse une partie de Paris.
Donc il y a une maison là, qui est la maison Victor Hugo, maison littéraire de Victor Hugo.
D'accord.
Il y a une de nos membres, Tina, qui y est allée, qui a aussi rapporté quelques photos. Et puis il y a nous.
Ah oui, mais oui, c'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui. Hein.
Il y a quand même deux autres. Il y a Guernesey, la maison de Guernesey où il a vécu pendant 15 ans, où je suis allé trois fois, effectivement.
Alors, on va préciser pour Guernesey il part à Guernesey, c'est quand même important, au moment où Napoléon Bonaparte,
Napoléon III,
fait son
coup d'État.
Victor Hugo est contre et donc était obligé de s'expatrier pendant 15 ans.
Il avait un peu la police aux trousses. Donc,
il n'était pas le seul d'ailleurs. Puisque même Lamartine, dont vous avez parlé, s'était présenté aux élections face à Napoléon III, perd l'élection.
Il a été moins ardent que Victor Lamartine dans cette affaire. Et donc, il était parti à Bruxelles, sur la Grande Place, là, quelque temps.
Il a été expulsé.
Il a été désigné persona non grata, parce qu'il y avait tous les exilés qui venaient le trouver, ça faisait...
un peu désordre.
Oui, la France a râlé un peu sa présence, donc ils ont voté une loi spéciale pour l'expulser, donc c'est là où il est parti à Guernesey.
Guernesey est anglaise, c'était plus facile.
Il a fait un crochet par Londres, il n'est pas resté très longtemps, et il est allé à Jersey. Parce que, d'une part, il voyait les côtes de France, disait-il, depuis là, ce qui est vrai. Et d'autre part, il avait eu comme première intention de n'en faire qu'une étape pour venir vivre sur la côte basque. Parce que là, le climat est meilleur quand même que là-haut. Et puis, il y est resté 3 ans à Jersey, puis il a été expulsé de Jersey par les autorités pour avoir signé un libelle contre la reine Victoria à l'époque. Donc, il est venu à Guernesey, où il a acheté cette maison. On dit que c'est la première fois qu'il a été propriétaire d'une maison.
Qui se visite d'ailleurs également.
Très grosse maison, très belle maison, sur 3 étages, avec un beau jardin, Et il achetait ça, tenez-vous bien, rien qu'avec les droits d'auteur des contemplations.
D'accord.
Wow.
Ça en dit long sur...
Oui. Donc, il a vécu là, et ça a été transformé aussi en musée, très joliment. Et puis, il y en a une autre à Saint-Sébastien. À l'extérieur de Saint-Sébastien, ça s'appelle Passares. Et un très joli endroit qu'il a beaucoup aimé quand il est venu en 43. Et là, il y est resté seulement 8 jours, mais enfin, il en a gardé un très, très, très bon souvenir. Et c'est aussi un musée arrangé par les Espagnols maintenant. Voilà.
D'accord, qui a aussi beaucoup de respect pour le poète Victor Hugo, qui, bon, malgré tout, était français.
Oui, oui.
Né à Besançon, donc dans le Doubs, en 1802. Il avait écrit, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure là concernant la maison à Guernesey, quand il revient en France. Alors je ne sais pas si c'est avant ou après de revenir en France, il écrit ce vers magnifique. Lors de son exil, il dit, il écrit, ce mois de, le mois de mai sans la France, ce n'est pas vrai, véritablement le mois de mai.
Oui.
C'est, je trouve que la phrase... tout est résumé dans cette phrase. Il parle du printemps, le mois de mai, c'est la France. Oui, oui. Ce n'est pas véritablement le mois de mai.
Il faut dire qu'à Guernesey, le mois de mai.
Oui. on va pas non plus tirer sur nos amis anglais. Leur dire
non, on va les laisser tirer les premiers.
Voilà, exactement. Oui. Ça, c'est la bataille de Fontenoy, ça.
Ah ouais. Ce vers-là a d'autres résonances aussi. Maintenant, depuis 68, le mois de mai, c'est la France. N'est pas le mois.
Oui.
De mai.
Alors oui, ça, c'était un autre mois de mai encore. Oui. Victor Hugo encore n'a pas vécu effectivement cette période effectivement. Bon, on rappelle quand même qu'on est avec vous, Jean-Claude Rieu-Debatte, qui est le créateur et le président de l'association des Amix de Victor H. Je rappelle quand même aux gens, et je les incite à aller voir cet article de la Nouvelle République des Pyrénées, donc daté du 14 mai 2024, qui relate l'achat que vous faites d'un quatrain écrit de la même de Victor Hugo, qui se trouve, ce quatrain, au musée, enfin à l'espace. Mmh. Victor Hugo, donc à Juillan, proposé à 500 euros à la salle des ventes que vous achetez 950 euros, donc...
Non. Je n'ai pas acheté le quatrain, j'ai acheté la double page.
La double page, oui. Ah d'accord. Ah, parce que ce qu'ils mettent dedans, c'est un quatrain écrit de la main de Victor Hugo.
Il était à la vente, mais je l'ai laissé passer parce que bon...
Ah mince.
C'était un peu beaucoup quand même. Je trouvais 950 euros pour 4
lignes. Ça fait cher la ligne.
D'accord, ok. Bon, et d'accord, c'est pour ça. Tel qu'ils le mettent à l'intérieur, on a l'impression que vous avez effectivement...
J'ai hésité, mais non, quand même, il faut être raisonnable.
Bon, d'accord. Donc vous nous avez dit un peu ce musée, les trois animations que vous y faites chaque année. Si des gens vous contactent, là, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont sur les Hautes-Pyrénées ou ailleurs, puisque sur présence on est écouté sur toute l'ancienne région Midi-Pyrénées, si on a des auditeurs et des auditrices qui souhaitent visiter le musée, et comme on a bien compris qu'il n'y a qu'une clé, que c'est vous qui l'avez, comment ils font pour vous contacter et pour pouvoir, le cas échéant, visiter ce musée en dehors de ces trois journées?
Il faut venir sonner chez moi.
Ah, c'est alors, bien. Chez vous, c'est où?
J'habite à 100 mètres à peu près seulement. C'est au numéro 12 de la rue Maréchal Foch.
Alors, 12 rue Maréchal Foch, ça c'est facile à retenir. Oui. Donc à Juillan, on vient trouver le président Jean-Claude Rieu-Debat. Oui. On peut venir sans vous prévenir ou est-ce qu'il vaut mieux...
En général, il vaut mieux téléphoner, mais bon, en principe, je suis quand même là.
Ouais. Vous avez une adresse courriel où les gens peuvent vous contacter?
Non,
d'accord, c'est pas votre truc le courriel. Non. Bon. Vous êtes comme moi, quoi. Vous préférez, il vaut mieux le contact, effectivement. Oui. Vous n'êtes pas un geek, comme on dit aujourd'hui.
Non, du tout.
Bon, c'est pas plus mal.
Donc voilà, je suis en face des poteaux du terrain de rugby, donc je suis très facile à trouver.
Ah, bon, d'accord, ok. Donc ça, c'est facile.
Terrain de rugby, les poteaux, vous êtes de l'autre côté. Voilà.
Vous êtes de l'autre côté. Bon, ok. On va aborder, par contre, avec vous, semaine prochaine, Jean-Claude Rieu-Debatte, parce que, bon, on le rappelle, vous êtes président de l'association des Amix de Victor H, en parlant de Victor Hugo, bien entendu. Vous êtes auteur de romans également, de pièces de théâtre, de poésie. Il y a notamment les éditions Le Seloutière, j'ai regardé, qui est une maison d'édition basée à Tarbes, qu'on a reçue ici dans ce studio, donc il y a plusieurs semaines de ça, notamment
Mylène
Fond de Cave. Voilà, merci Diego Arabal, j'avais un trou.
De rien, c'est
Mylène,
mes voisins.
Mylène Fond de Cave, c'est l'âge, qu'est-ce que vous voulez, ça. Vous verrez à mon âge, Diego Arabal. Et Mylène Fond de Cave, voilà, qui dirige donc les éditions Le Solitaire. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle semaine prochaine, bon pied, bon œil, comme d'habitude, hein, après avoir évoqué donc le musée, l'espace Victor Hugo. Mais je retiens le musée Victor Hugo, puisque tout le monde parle de musée, oui, Victor Hugo. Il n'y a pas de conservateur à mi-temps. Maintenant, s'il y a un conservateur à mi-temps qui veut bien venir à titre bénévole, que ça ait le titre de musée, on lance un appel sur les ondes de Radio Présence. Hein, pour avoir cela, je sais pas ce que vous en pensez.
Moi je trouve que c'est une bonne idée, mais de notre côté, vous mettez un petit bol avec du sel, le sel étant un conservateur.
C'est une très bonne idée. On va se quitter là-dessus.
C'est une idée du sel.
Très bon guide. C'est une bonne idée, ça, de faire ça. Bon, on se retrouve semaine prochaine, ici même, dans ce studio, Jean-Claude Rieu-Debatte, pour évoquer, effectivement, eh ben, les textes que vous avez écrits. Mon cher Diego, semaine prochaine.
Eh bien, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jean-Claude, au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase.
Me reste le reflet de moi-même. Le vide s'installe, du rire aux larmes, ce mélange se perd dans mon âme.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Présence dans le Comminges 94.1.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Léon XIV en route vers le Cameroun, où l'attendent avec ferveur les fidèles catholiques, comme nous l'entendrons.